France Inter. Bienvenue dans l'humour d'Inter, l'hebdo, l'émission dans laquelle on réécoute le nectar de l'humour de la semaine. Et dans cette émission, Daniel Morin pense à une réorientation pour notre président.
Vous l'avez vu, quand il accueille quelqu'un, il a toujours une main posée quelque part sur la personne. Sur l'avant-bras, sur l'épaule, sur les lombaires. Le mec, il n'est pas président, il est ostéo.
David Castello-Lopez a adoré le salon de l'agriculture.
J'ai kiffé, bien sûr, parce que j'ai vu des petites vaches, des petites chèvres et des petits cochons qui tétaient en dormant comme ça. C'était trop mignon.
Lison Daniel incarne un Ivan enamouré et nostalgique.
Le musée du clou de Budapest, te souviens-tu? Il y a plus de 24 sortes de clous. Tu m'avais dit que ton préféré, c'était le clou de tapissier. Ah, quel après-midi, Amalia.
Et puis on va réviser nos cours d'histoire avec un petit récap de la Révolution française façon radio pastiche.
Dans la nuit du 4 août, c'est l'abolition des privilèges. Tous les hommes seront égaux devant la loi. Chacun aura le droit d'exercer le métier qu'il désire.
Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, mon chéri? Quel droit de choisir maintenant?
Je veux être entier.
C'est notre chronique vintage de 1957. Et puis, nous ferons plus ample connaissance avec deux chroniqueurs, chroniqueuses régulières de la chaîne. Avec moi aujourd'hui, Camille Lavabre, que vous écoutez depuis 2022 dans la bande originale. Elle est marseillaise. Elle a commencé ce métier en étant Miss Météo pour Canal+. Aujourd'hui sur scène, elle alterne personnages et stand-up pur. Bonjour Camille Lavabre.
Bonjour Marie.
Merci d'être ici.
Mais ça me fait très plaisir, merci à toi.
T'étais contente de venir dans ton studio de la bande originale?
Ouais, on m'offre un café, un verre d'eau, je suis au top.
Et puis à tes côtés, un humoriste que l'on retrouve au micro de France Inter dans la matinale depuis 2021. On le connaît pour ses innombrables personnages comme Damien Bézé ou Monsieur Pringle. Depuis, c'est surtout à l'écran et sur scène qu'on le retrouve, comme par exemple son dernier spectacle, plus personnel, Rodolphe. Cet humoriste, c'est Jonathan Lambert. Ça va, Jonathan Lambert?
Bonjour Marine, bonjour Kimi. Mais irrégulier, en ce qui me concerne,
oui.
Chroniqueur irrégulier, irrégulier.
Mais quand même.
Erratique même.
Ouais, mais quand même, depuis 2021, il y en a eu,
ouais,
pas mal,
c'est
des
vrai,
chroniques.
Depuis 2021,
c'est bien, quasiment plus que Camille, finalement, qui est là toutes les semaines depuis.
Finalement,
je te remercie de le souligner.
il faut 40 ans pour faire une saison, en fait.
Alors, Camille Lavabre, Jonathan Lambert, des chroniques, de l'actu, vous passez décidément un très bon samedi après-midi. Vous êtes sur France Inter, vous écoutez l'humour d'Inter, l'hebdo. Bienvenue chez vous.
L'humour d'Inter, l'hebdo.
Ceci est une émission de radio.
Hier soir, c'était les Césars, et comme vous le savez, c'est cet acteur incroyable qui a remporté la timbale. Puis le meilleur film aussi, vraiment, moi j'avais adoré, il est vraiment super. Puis mon coup de cœur, bien sûr, c'est ce discours très puissant qui a été prononcé par cet acteur. Bon, j'ai pas regardé. En revanche, j'ai été plus assidue pour la version belge de la cérémonie Les Magritte du cinéma, qui était présentée par notre Charline Internationale. Ce jeudi, elle a tenu à rejouer en direct et en version améliorée la chanson qu'elle a chantée lors de la soirée avec Frédéric Fromet. Ça s'appelle Le mi-tourbillon de la vie. To do it, to go, what to do, don't you? What the thing I do to me if I don't speed you? What to do it, to go, what to do, don't you? You're my pull star. How to do it, to go, what to do, don't you? What the thing I do to me if I don't speed you? What to do it, to go, what to do without you? You're my pull star.
Ah, là, il y a du niveau. Hein.
Ah, oulala, oui. Ça va aller, Fred? Toi, tu peux suivre?
Ah, moi, oui, mais toi?
Ouais, ouais, carrément, ils sont en do majeur, là.
Moi, je peux ressortir un do dièse.
Un fa dièse.
Un là.
Moi, c'est un ré.
Oui, alors, moi, je suis en mi bémol, mais attention de la clé dut. Hein. Vous maîtrisez la clé dut ou pas, vous?
T'inquiète, on gère.
Ok. Alors, si vous êtes à la rue, vous me suivez, je garde le lead. Hein.
Ok, merci.
Elle avait la haine contre Harvey Weinstein, le ripostant contre Christophe Rodia.
Elle dit non monsieur,
Gérard Depardieu, j'irai pas dans ton pieu. Ils avaient des yeux de chacun, qui la dévorait. Elle passe à un casting spécial,
sa rébellion leur fut fatale,
ils terminèrent au tribunal.
Elle eut la pression
face à Jacques Doyon.
Elle perdit ses mots
face à Benoît Jacquot.
Elle n'eut pas envie
de voir le zizi
de Roman Polanski. Enfin les salauds sont punis,
c'est le mi-tourbillon de la vie.
La prochaine fois que tu touches à moi,
je te fais bouffer ta caméra.
Je te fais bouffer ta caméra.
Il est affligeant
que le septième art
soit à la merci
du premier connard
qui, lorsqu'il réclame
silence plateau,
c'est pour taire qu'il est un bourreau.
Pour qu'on n'en fasse pas toute une scène
et museler les comédiennes,
oser quand elles dénoncent les crimes,
les accuser de se faire des films,
les accuser de se faire des films.
Elle imaginait
mener sa carrière
loin de la rubrique
des faits divers.
Elle eut de la chance
de pas devoir faire un biopic sur l'abbé Pierre.
C'est fini car maintenant voici
mes tourbillons de la vie.
Ça va faire mal, ouïouïouï.
Les agresseurs gare à vos couilles. Les agresseurs gare à vos couilles.
On s'est connus,
y a eu des abus.
Petite main au cul,
puis la garde à vue.
Les femmes ont moins peur
du monstre dans Alien que de Woody Allen.
C'est terminé, le tout permis.
Mi tourbillon de la vie.
Sans jamais plus faire agresser.
On doit pouvoir enfin tourner. Tous ensemble dans le respect. Tous ensemble dans le respect.
C'était Charline Vanhoenacker qui se professionnalise de plus en plus dans la chanson. C'est du lundi au jeudi à 9h45 dans la matinale, mais qui redevient journaliste le samedi à 19h pour son émission Bistroscopie, dur à dire. D'ailleurs, ce soir, elle trinquera avec la philosophe Myriam Revaud-Dallone. Je suis toujours avec Camilla Vabre et Jonathan Lambert, deux humoristes qu'on entend régulièrement à l'antenne, plus ou moins régulièrement, comme tu le disais, Jonathan. Vous vous rappelez de votre première chronique à France Inter ?
Non, moi précisément oui, parce que c'était vraiment le hasard. J'étais allé rencontrer Yann Chouquet, qui était directeur des programmes à ce moment-là, pour lui parler d'une idée d'émission que j'avais. Il parle, mais je sentais qu'il écoutait, enfin qu'il en avait rien à foutre en fait, de mon projet. Et à la fin, il me dit, non mais en fait, le truc, moi, c'est que je cherche quelqu'un pour genre lundi ou mardi, parce qu'il y a un chroniqueur qui peut pas venir, et il me lance comme ça le truc du tac au tac. Je me suis dit, ouais, c'est marrant comme exercice, je l'ai jamais fait. Et voilà, donc je me souviens que c'était vraiment le fruit du hasard.
Et toi, Camille, ta première chronique ?
Terrorisée.
La base.
La base, moi, en fait, j'avais fait un sketch au Molière en 2022 et Nagui était dans la salle et Nagui m'envoie un message quelques jours plus tard en me disant « Quand puis-je t'appeler sans te déranger ?»
Est-ce que tu as répondu « C'est vraiment que t'es Nagui, donc tu peux m'appeler tous les
Nagui,
jours. »
Appelle-moi jour et nuit, oui, évidemment. Voilà, et quelques jours plus tard, je faisais ma première chronique et j'étais... Non mais ouais, vraiment, j'étais terrifiée, quoi.
Bon, en tout cas, moi, je suis ravie qu'on rie avec vous sur cette antenne, et pas contre vous, d'ailleurs, ça c'est très important, avec vous, pas contre vous, parce que la chanteuse Théodora, elle a pas de bol, tout le monde se fout d'elle, elle en a fait une chanson qu'on écoute tout de suite, « Il me rit tout sonné ». C'est Théodora sur France Inter.
Marine Baousson sur France Inter.
Vous écoutez l'émission qui, au contraire de l'entourage de Théodora, visiblement, ne se moque pas de vous, notamment parce que, invité de qualité, je suis toujours avec Camilla Vabre et Jonathan Lambert. Dans quelques minutes, ensemble, on va parler de leurs inspirations, mais juste avant, on va écouter Daniel Morin révéler la nature profonde d'Emmanuel Macron. C'était mercredi à 6h57.
En Nouvelle-Zélande, Andrew Bailey, le ministre du Commerce, a dû démissionner. Motif, au cours d'une réunion, il a posé sa main sur le bras d'un collaborateur. Et en Nouvelle-Zélande, c'est considéré comme un geste déplacé. Il a déclaré « J'ai dépassé les bornes, j'ai placé ma main sur son bras, ce qui est inapproprié. » Le mec à qui il a touché le bras a porté plainte et bam, démission. Oh, t'imagines ça en France ? Non mais Macron, il se rend tout le... Macron, il tripote tout le monde, tout le temps. Vous l'avez vu, quand il accueille quelqu'un, il a toujours une main posée quelque part sur la personne. Sur l'avant-bras, sur l'épaule, sur les lombaires. Avant-hier, il a touché 3 fois le genou de Trump. Le mec, il n'est pas président, il est ostéo. Un jour, il ne va pas faire gaffe, il va mettre une main au cul à Poutine. 3e guerre mondiale. Ah oui, les mains dans les poches. Alors, pour en revenir à la Nouvelle-Zélande, je ne voudrais pas être dans le jugement. Mais quel pays à la con, quand même. Bon, sinon, vous vous souvenez, je vous avais parlé de gens qui emmènent leurs chiens dans des restos où il y a des menus pour eux, qui les emmènent dans des hôtels spa spécial clébards. Eh bien, ça ne s'arrête pas là. Ça existait déjà, c'était passé de mode, mais là, ça repart en flèche, les psys pour chiens. Est-ce que ça sert à quelque chose ? Écoutons le témoignage d'Hervé, caniche en psychanalyse depuis 2 ans. Bon, en fait, avant d'aller chez le psy, ça allait plutôt bien. Je suis tombé en dépression à force d'aller le voir. Avant, ma maîtresse m'emmenait au parc et je pouvais jouer avec les autres chiens. Des fois, on se cachait derrière un buisson pour fumer un petit joint à la croquette. C'était la belle vie. Maintenant, plus de parc. Pendant les séances, le psy veut que je lui parle de mes rapports avec ma mère, mais je ne l'ai jamais connue, ma mère. Je suis un caniche d'élevage, je ne sais même pas qui c'est, cette chienne. Du coup, maintenant, je vais de moins en moins au parc. Je passe mes journées devant la chaîne animaux. Ma mère me gaffe de gâteaux. J'ai du diabète, je suis constipé. Je suis au bout de ma life. Ah bah si c'est un caniche qui le dit, Kevin, je pense que forcément on peut lui faire confiance. Hein. Et faire une psychanalyse, c'est vrai que c'est toujours un petit peu délicat, c'est compliqué comme sujet. Hein. Tenez, notre voisin, animateur paranoïaque bipolaire, celui du 7-10, et il connaît bien, il connaît même très très bien cet univers. Son premier psy, après 1 heure d'entretien, on a dû l'interner. Il a déclaré à son admission à Sainte-Anne, « Avant de recevoir le monsieur de la radio, j'avais jamais entendu autant d'horreur. » Puis, on l'a lâché dans le jardin, le psy, il a grimpé un arbre pour ne plus en redescendre. Il passe ses journées à faire le cri de la chouette. Aujourd'hui, Nico, oui, c'est lui dont on parle, hein. Nico va mieux. De temps en temps, il y a rechute, on le voit courir dans les couloirs pour attraper un stagiaire et lui raser le crâne, mais il a un traitement. Hélène Philly, son infirmière de la semaine, lui fait une piqûre tous les quarts d'heure. Ça l'aide à tenir. Voilà.
Daniel Morin n'a de cesse de nous surprendre, puisqu'après seulement 25 ans de chronique sur France Inter, il commence la scène. Il fera ses grandes premières les 19, 20, 26 et 27 avril au point virgule. Je lui prédis une grande carrière. En attendant, il clôture le 5-7 du lundi au jeudi à 6h57. Camille, Jonathan, pour en apprendre un peu plus sur vous, je vous propose un petit jeu. J'ai déposé des petites cartes devant vous. Vous allez les tirer, les piocher, chacun votre tour. Vous allez lire l'énoncé pour déclencher un son. Alors, à qui il fait référence ? À quoi il fait référence ? C'est la surprise. Je vous laisse, peut-être Camille, vas-y, honneur aux dames.
C'est très ésotérique, la disposition.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah
ouais. Déroulé du strapontin.
J'ai placé Huster, j'ai placé Delon, j'ai placé Macron dernièrement. J'ai placé les plus grands. J'ai placé aussi Tom Cruise. Alors, Tom Cruise, qui n'est pas très grand, comme vous le savez, n'a pas vu grand-chose au spectacle. Et pourtant, je lui avais proposé un rembourrin, Rambourine.
Ça, c'est Muriel Robin dans un sketch avec Alex Lutz pour les Césars il y a quelques années. Camille, c'est pour toi, alors. Ça, tu t'en rappelles. Ça y est, ça te revient.
Moi, j'ai placé Catherine Deneuve, en fait. Donc,
c'est vrai
? J'ai aussi placé ma mère une fois qui est venue. Enfin, voilà,
c'était la même...
La même personne. Ah,
T'as déroulé du strapontin toi-même.
J'ai déroulé du strapontin.
C'était ton entrée dans le théâtre ?
Bah oui, parce qu'en fait, ça permet de voir plein de spectacles, donc de découvrir aussi le théâtre qu'on n'aime pas. Oui, c'était le théâtre du Rond-Point.
Ah ouais.
Donc j'ai vu des pièces super et j'ai vu des pièces.
Jonathan, un papier.
Alors, la pluie et le beau temps.
Ah,
on va parler que de moi.
3 degrés à 7, 7 degrés à 3, 90 degrés à angle droit, 100 degrés à Courbouillon, 38,5 au lit avec un grog et 0 degré dans la galerie des glaces.
On vient d'écouter Francis Blanche qui faisait un peu sa Miss Météo. Mais justement, Camille, toi, tu as commencé ta carrière en étant Miss Météo de Canal+.
Exactement. C'était la première fois que je travaillais vraiment, que je faisais vraiment mon métier de comédienne et d'auteur d'ailleurs aussi.
Et c'est là que tu as eu l'impression d'apprendre un peu ton métier.
Ouais, vraiment, c'était très très formateur.
Parce que c'était chaque soir un nouveau sketch.
C'était tous les soirs un nouveau sketch. C'était du coup tous les jours écrire un nouveau sketch.
Parfois, et puis annoncer des mauvaises nouvelles parfois. Des cumulonimbus, ouais,
des orages,
c'est quand même dur,
c'est pas patient,
c'est dur. Ah ouais.
Donc c'était vraiment plus que formateur. Ouais.
Un nouveau papier.
Scène conventionnée.
Ton sexe est dans ta main qui brille. Je t'apporte le cadavre de ton chien décédé.
Pardon, Christine, excuse-moi, je te coupe. C'est très intéressant ce que tu fais. Hein. J'aime beaucoup cette oppression thoracique avec laquelle tu contiens ton texte. Par contre, il y a une chose, Christine, ne me refais plus jamais ça ou alors je donne ma démission.
Ça, j'ai fait.
Tu as regardé Jean Calin ? Tu lui parles, ton texte s'adresse à lui et tu le regardes, c'est absurde.
On vient d'entendre les Robin des Bois.
La parodie du conservatoire, un de mes sketchs préférés.
Évidemment, un des sketchs préférés.
Ouais, Marina Foïs.
Et Marina Foïs, c'est une de tes idoles.
Oui. En termes de modèle dans l'humour, parce que je m'identifie peut-être plus à des comédiens, comédiennes qu'à des humoristes, parce qu'à la base, je me considère plus comédienne qu'humoriste. Et je trouve que Marina Foïs, c'est un des génies de l'humour. Elle a la vis comica, c'est inexplicable, elle l'a, c'est comme ça. Voilà.
Mais ça veut dire que toi, tu pourrais abandonner peut-être l'humour pour ne devenir que comédienne ?
Ah bah, je dirais pas que c'est ce que je suis en train de faire, mais presque.
C'est vrai ?
Non, là, ouais, j'ai même arrêté mon spectacle et tout, parce que je... Par exemple, j'ai joué au théâtre, ouais, comme toi aussi, Jonathan. Et j'adore le théâtre, j'adore partager la scène avec des partenaires. Et en fait, l'humour, je suis passée par là, par le One Woman Show, mais pour jouer en tant que comédienne, en fait. Parce que sinon, personne me donnait du travail, donc je suis allée m'écrire du travail. Mais après, je suis ravie d'être... j'adore faire des chroniques ici et tout, mais... Mais j'aimerais de plus en plus être...
Mais je pense que tout le monde, c'est un peu comme ça, moi c'est pareil, je rêvais d'être comédien, mais voilà, quand on est jeune, qu'on n'a pas de...
Et qu'on ne sait pas par où commencer.
Par où commencer. Alors évidemment, j'ai pris des cours de théâtre, tout ça, mais il y a un moment donné, et l'humour, je me suis dit, c'est peut-être là où au moins je pourrais proposer ma personnalité, faire des choses, donc j'ai fait des sketchs, et puis petit à petit...
Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, mais toi, voilà, tu n'es pas un féru de stand-up, à la base. À la base, t'aimes jouer.
Oui. Ah bah, moi, je serais très heureux de ne plus écrire, d'ailleurs. Non, mais c'est vrai.
Tellement confortable,
mais
c'est
clair. C'est vrai, il y a un moment...
Alors, ça enlève beaucoup de pression.
C'est-à-dire que, c'est, entre guillemets, on se dit, si c'est pas drôle, c'est pas moi, quoi. Donc moi, je suis juste, je sers le truc, je fais au mieux, je suis dirigé. En tant que comédien, c'est agréable de se laisser porter, de se dire, ah bah non, ok. Et puis ça régénère, quoi, parce qu'on n'est plus à s'auto-regarder, à s'auto-juger, et ça fait du bien.
On est au service
de pas soi-même.
De pas soi-même.
Je l'attends un papier.
Alors, tableau abstrait.
Écoutons.
I loved actors who employed every bit of their instrument.
J'aime les acteurs qui utilisent toutes les cordes de leur instrument.
It's a kind of painting.
Moi, je me suis toujours considéré comme
an abstract painting a lot of times.
Un tableau abstrait, le plus souvent.
So I know the method.
Je connais la théorie, la méthode Stanislavski, la méthode Messner. Ça m'est utile, mais en même temps, je peins.
On vient d'entendre Jim Carrey.
Ah ouais, ah oui, c'est vrai qu'il peint, ouais.
Et je crois que Jim Carrey, c'est une de tes vraies références.
Oui, alors pas sa peinture, pour être très honnête. Parce que j'ai regardé, à un moment, il postait des trucs, j'étais ouais. Mais non, je suis... parce que c'est le vrai génie comique. On sent beaucoup aussi de fragilité, d'éminemment dépressif derrière ce personnage. Et d'ailleurs, on ne sait pas s'il en joue, parce qu'il y a quand même, il met ça quand même pas mal en avant. Et bon, après, c'est aussi, c'est les ricains, c'est différent, mais dans la grosse, grosse connerie très assumée, comme évidemment Dumb and Dumber ou le film de Gondry,
Eternal Sunshine, voilà,
c'est cueillant parce que c'est. En fait, il y a une vérité. C'est-à-dire que quoi qu'il fasse, c'est tellement assumé qu'il y a une vérité et que c'est irrésistible.
Justement, dans cette interview-là, il dit « Moi, j'aime les acteurs qui ne jouent pas l'émotion, mais qui sont l'émotion. » Et en même temps, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous caractérise tous les deux, parce que vous incarnez vraiment souvent des personnages, et comme ça, d'être complètement habité par ces personnages-là, pour pouvoir les laisser à d'autres moments. Mais j'ai l'impression que vous vous servez complètement, entièrement de votre corps, comme un outil, comme un instrument.
Oui, puis on est très sincère et premier degré. Il ne faut pas se moquer de son personnage, quoi.
Oui, c'est génial d'assumer d'être premier degré pour que ça devienne, pour que ce soit perçu comme justement de la plaisanterie par les autres. C'est en fait se foutre de soi-même, c'est la politesse de l'humour. Avant de se moquer des autres, faut se moquer de soi-même. Après, on peut se moquer des autres, on peut se moquer de plein de choses, mais faut avoir au moins cette autodérision là pour se permettre d'aller plus loin.
Un nouveau papier, Camille. Vas-y, tire.
Groucho, Chico et les autres.
Ah, ça c'est peut-être pour moi. Enfin, moi je suis fan des Marx Brothers, c'est ça?
Hello?
Is your flight o'clock, Mr. Wentman?
All right. Hello?
Flight of medical board, good morning. Just a moment, sugar.
I'm sorry, sir, but there's a hurricane blowing down here, and you'll have to talk a little louder.
Alors, je ne fais pas la traduction pour des raisons de... Je ne comprends pas tout ce qu'ils sont en train de dire.
Il y a plein de jeux de mots aussi chez eux, mais...
C'est... En quoi ça t'inspire, justement, les Marx Brothers?
Parce que c'est les inventeurs de, à la fois de l'absurde, de l'humour moderne. Alors, c'est très vieux, bien évidemment, ouais, mais déjà, cette fratrie, ces personnages qui sont complètement différents, la poésie de Harpo, parce qu'il est muet, donc on est un petit peu dans le cinéma muet, et c'est le clown, et en même temps, c'est poétique. Il y a Zeppo, il y a Groucho, évidemment, avec sa moustache qu'on connaît. Ce qui est génial dans l'humour visuel, c'est que ça nous ramène à l'enfance, et ça marche toujours. Quand c'est fait avec ce sens artistique et ce côté burlesque, c'est absolument génial.
Un dernier papier.
Conseil aux débutants.
Vous voulez savoir qui je suis? Je suis un comédien, enfin du moins je l'espère. Un comédien comique, oui. Je voudrais continuer à faire rire car vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que d'entendre une salle pleine de préférences qui rit. Vous ne pouvez pas savoir la joie que c'est. Personnellement, je crois que je ne pourrais jamais me passer de ça.
On vient d'entendre François Perrier. Exactement,
ouais.
Qui a donc écrit un livre qui s'appelle « Lettre à un jeune comédien ».
Ça, c'est très fort. Je sais à quoi vous faites référence. Enfin, c'est pour moi.
Oui, oui.
Je m'approprie le truc, mais on aurait pu l'avoir en commun.
C'est pour toi.
Non, c'est marrant, c'est vrai, c'est mon père qui m'avait offert ce livre qu'avait écrit François Perrier. Et comme j'ai jamais dit à mes parents que je voulais être comédien, parce que je ne l'assumais pas, c'était comme si je leur avais dit je veux être le roi du pétrole, ou je veux être playboy, ou je veux être, enfin, je veux dire quelque chose d'un peu où je veux être une princesse de conte de fées. Enfin voilà, il y avait quelque chose qui était pour moi quelque chose d'inatteignable. Et un jour, mon père m'a offert ce livre. Et comme il était très pudique et qu'on se disait jamais les choses, le fait qu'il m'offre ce livre, j'avais l'impression que c'était une façon de me dire « si tu veux faire ça, ben, vas-y, lance-toi ». Donc c'est un tout petit livre, effectivement, de François Perrier, et voilà, ça me touche beaucoup d'entendre ces mots-là.
Et ben, je suis très, très heureuse, et puis très heureuse aussi d'en avoir appris un peu plus sur vos inspirations. Il y en a un qui, lui, n'est inspiré que par les questions qui le taraudent, c'est David Castello-Lopez. Cette semaine, il s'est demandé s'il fallait aller au Salon de l'Agriculture.
Je suis, je pense, comme vous tous, un enfant de la ville. Donc, mon quotidien, depuis toujours, il est fait de béton et de vacarme, et non pas de vergers et de gazouillis. Alors, bien sûr, des fois, je vais à la campagne, mais même là, mon chemin croise rarement celui des professionnels de la terre. Et donc, chaque année, ou presque, je me rabats, comme des milliers d'autres Parisiens, sur cette interface suprême entre Paris et le monde des champs, qu'on appelle le Salon International de l'Agriculture. J'y suis retourné ce week-end, et une fois de plus, j'ai kiffé très fort. J'ai kiffé, bien sûr, parce que j'ai vu des petites vaches, des petites chèvres et des petits cochons qui têtaient en dormant comme ça. C'était trop mignon. Mais j'ai kiffé aussi parce que j'ai appris plein de choses. J'ai eu la chance notamment de participer à un atelier à la découverte des légumes secs. Et je me suis rendu compte que mes connaissances en la matière étaient très partielles. Même si j'avoue que le monsieur qui animait l'atelier avait lui aussi des lacunes. Puisque la première question que je lui ai posée, c'était « Quelle est la définition d'un légume sec ?» Et il m'a répondu « Je sais pas ». J'ai découvert aussi des entreprises dont je ne soupçonnais pas l'existence. À commencer par Télescoperche. Le slogan de l'entreprise Télescoperche, c'est « atteindre l'inaccessible ». Mais pas atteindre l'inaccessible au sens bullshit new age des consultants en développement personnel. Non, atteindre l'inaccessible au sens délicieusement propre. Atteindre l'inaccessible chez Télescoperche, ça veut dire atteindre des trucs qui sont placés en hauteur. En gros, ils vendent des balais dont le manche fait 10 mètres de long. Et moi, j'ai eu terriblement envie d'en acheter un et de passer le reste de ma vie à trouver des choses super hautes à nettoyer. Mais surtout, au Salon de l'Agriculture, ce que j'ai préféré, comme souvent, c'est le marketing. Je suis arrivé comme ça à un moment devant un stand où il y avait marqué « Dites oui au lait français ». Alors vous le savez, moi j'aime pas qu'on me donne des ordres, mais là j'avais envie, alors j'ai dit oui au lait français. Un peu plus loin, au pavillon des fruits et légumes, j'ai vu marqué « La banane française, innovante par nature ». Alors je me suis demandé, qu'est-ce que c'est qu'une banane innovante par nature ? Et heureusement, il y avait une explication qui disait « c'est une banane qui a toujours un coup d'avance ». Une banane donc qui s'oppose, j'imagine, à toutes ces bananes qui se reposent sur leur laurier de bananes et qui tôt ou tard finiront par payer le prix de ce manque de dynamisme. Et enfin, J'ai passé une heure entière à visiter les stands des grands groupes de l'agroalimentaire. Et moi, ces groupes, ils me font un peu de peine. Parce que vraiment, pendant les Trente Glorieuses, c'était les rois du monde. Ils incarnaient un avenir super, fait d'abondance savoureuse et bon marché. Mais aujourd'hui, pour beaucoup de gens, l'agroalimentaire, c'est le shaitan. Et au Salon de l'agriculture, ils essayent désespérément de se déchaitaniser. Herta, par exemple. Sur le stand Herta, vous pouvez gagner un petit porte-clés en forme de cochon. Comment ? Eh bien, en répondant à des questions sur à quel point Herta est une entreprise fiable et durable. Il y avait par exemple la question suivante. Pour garantir la sécurité alimentaire de sa charcuterie cuite, Herta a mis en place un parcours de tests novateurs. En quoi consiste-t-il ? Alors, à votre avis, est-ce que la réponse c'est petit A, Herta réalise des analyses au hasard sur quelques produits ? Ou plutôt petit B, Herta réalise plus de 130 000 analyses microbiologiques par an avant la livraison de ses produits en magasin ? Eh bien, bien sûr, CB, bravo, vous avez gagné un porte-clés Herta en forme de petit cochon. Bref, en somme, oui, il faut aller au Salon de l'agriculture.
David Castello-Lopez, c'est l'ami qu'on aimerait tous avoir quand on se pose des questions. Et lui, il tente d'y répondre chaque mardi à 8h57 dans la matinale. Mais David Castello-Lopez, si tu m'écoutes, j'ai un message pour toi. Si tu as trop de tourments, ne les garde pas pour toi. Va le dire à ta maman, les mamans, c'est fait pour ça. Alors c'est pas de moi, hein, c'est de Dalida, dans sa chanson Bambino qu'on écoute tout de suite pour se remettre dans l'ambiance de 1957. On va écouter un sketch plus vieux que mon père, mais quand même aussi drôle.
Bambino, bambino, ne pleure pas. La mine triste, les joues blêmes. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu rôdes comme une âme en peine. Et tous les soirs, sous sa fenêtre, on peut te voir. Je sais bien que tu l'adores et qu'elle a des jolis yeux. Mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. Et gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Avec tes cheveux si blancs,
bambino, bambino,
tu as l'air d'un chérubin.
Bambino, bambino,
va plutôt jouer au ballon,
bambino, bambino,
comme font tous les gamins. Tu peux fumer comme un monsieur des cigarettes, te déhancher sur le trottoir quand tu la guettes. Tu peux pencher sur ton oreille de casquette. Ce n'est pas ça que dans son cœur te vieillira. L'amour et la jalousie,
bambino, bambino,
ne sont pas des jeux d'enfants.
Bambino, bambino,
et tu as toute la vie,
bambino, bambino,
pour souffrir comme les grands. Et gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Si tu as trop de tourments,
bambino, bambino,
ne le garde pas pour toi.
Bambino, bambino,
va le dire à ta maman,
bambino, bambino,
les mamans c'est fait pour ça. Elle a blotti de ses bras, pleure un bon coup et ton chagrin s'envolera.
C'est C'était Dalida, Bambino sur France Inter, une chanson sortie en 1957, exactement l'année de la chronique que l'on va écouter maintenant, car oui, chaque semaine dans cette émission, on se demande...
L'humour, c'était mieux avant ?
Mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour.
Le président m'a contacté pour mettre en œuvre son grand plan contre la fertilité, le réarmement démographique.
L'effet fut déplorable.
Vous vous rendez compte du préjudice que nous avons subi depuis des mois avec ma femme à cause de cette émission scandaleuse ?
Cette semaine, je crois qu'on peut même se demander si l'humour, c'était pas mieux avant, car j'ai vraiment fait vraiment dans les comme une castafiore, parce que nous partons direction 1957 pour écouter une émission qui s'appelait Radio Pastiche. Deux comédiens et chansonniers, Jacques Provin et Michel Méry, parodiaient chaque semaine. En plus, on se l'a dit tout à l'heure, c'est sûr que tu connais pas, Jonathan. Ils parodiaient chaque semaine une émission de radio sur la chaîne parisienne. C'est un petit peu les ancêtres du Palmachot, si vous voulez. Ce jour-là, ils parodiaient La Tribune de l'Histoire, qui devenait Le Podium de l'Histoire, une émission consacrée à la Révolution française.
À mort ! À mort ! Vive la liberté !
À la liberté !
Sire, une nouvelle nous parvient à l'instant de Paris. Le peuple a pris la Bastille.
Ah, quel jour sommes-nous ?
Le 14 juillet, sire.
Je me disais aussi, ce serait donc une révolte ?
Non, sire, c'est une révolution.
Au 14 juillet, en réalité, la révolution a été commencée depuis longtemps. Le 5 mai, les états généraux se sont réunis. On constate tout de suite un certain désaccord entre le clergé, la noblesse et le tiers état. Dans la nuit du 4 août, c'est l'abolition des privilèges. Tous les hommes seront égaux devant la loi. Chacun aura le droit d'exercer le métier qu'il désire.
Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, mon chéri ? Tu as le droit de choisir maintenant ?
Je veux être rentier.
Quoi ?
Rentier ?
Oui, eh bien tu seras forgeron, comme ton père.
Oh, bah c'était pas la peine d'abolir les privilèges, alors.
Le 20 juin 1791, le roi décide de fuir. Suis-je vraiment méconnaissable sous mon déguisement ?
Absolument, lui.
Nous allons voir. Et l'ami, sais-tu qui je suis ?
Non, votre majesté.
Oh, me voici rassuré. On peut y aller. Il y a là, mais pas loin. À Sainte-Menehoul, il est reconnu par le fils du maître de poste, Drouet.
Alors mon fils est arrivé et il m'a dit « Papa, ça semble inouï, mais j'ai reconnu Louis. » J'ai fait « Quel Louis ? Je ne connais pas de Louis, moi. » Alors il a ajouté « Papa, ne t'en déplaise, je crois que c'est Louis XVI. »
Arrêté à Varennes, le roi est ramené à Paris. Un an plus tard, jour pour jour, les insurgés envahissent les Tuileries. Encore ?
Mais je vous l'avais bien dit, Louis, qu'en nous réinstallant aux Tuileries, nous n'aurions que des tuiles.
La famille royale est alors faite prisonnière et enfermée au temple. Les événements se précipitent. La guillotine est dressée en permanence, attirant une foule de curieux.
Pardon, monsieur, c'est encore loin, la guillotine.
Prenez donc par le raccourci. Après l'assassinat de Marat le 13 juillet 1793...
Marat, as-tu du cœur ?
Charlotte Corday est une petite nièce de Corneille qui connaît bien ses classiques.
Alors, tiens !
On se suspecte de plus en plus.
Brrr.
Vous avez raison, il fait pas chaud ce matin.
Oh, ben moi je trouve qu'il fait très bon au contraire.
Alors pourquoi faites-vous...
Mais c'est la terreur.
Le 26 octobre 1795, la Convention nationale ferme ses portes après avoir mis aux voix un ultime ordre du jour.
Vous êtes sûrs, messieurs, qu'on n'a oublié personne ?
Personne !
On a bien supprimé tous ceux qu'il fallait ?
Tous !
Alors, messieurs, je propose que la peine de mort soit abolie.
Adoptée !
Dans ce cas, messieurs, la révolution est éminée.
Qu'est-ce qu'il dit ?
La évolution est éminée.
Mais ça, j'avais compris, mais pourquoi ne prononce-t-il pas les airs ?
Parce que, mon cher, si la révolution est terminée, le temps des incroyables et des méveilleuses commence.
André Cachalot vous a présenté le podium de l'histoire.
J'ai pas compris la chute, personnellement.
André Cachalot, c'est un pseudo ou c'est...
Je pense que c'était des
André
pseudos.
André Cachalot, c'est bien.
C'était donc Jacques Provin et Michel Méry en 57 dans Radio Pastiche. On peut en écouter plein sur l'application Radio France. Camille Lavabre, Jonathan Lambert, les pastiches, c'est un mot qui est un peu désuet, mais finalement, aujourd'hui, on fait encore des parodies. Ça vous parle, tout ça ?
Oui, bah, je trouve ça génial, la parodie. Mais c'est, oui, c'est peut-être parfois plus périssable. Mais j'aime bien, quand j'écris un truc, me dire, est-ce qu'en soi, c'est drôle, ou est-ce que c'est parce qu'on parle d'un truc...
Ou est-ce que c'est viral, comme on dit.
Voilà.
Toi, Camille, t'es cliente un peu, là. Tu arrives à faire de la parodie, à aller...
Parodie. En fait, moi, je parodie des gens que j'ai rencontrés dans ma vie, mais les gens ne savent pas, ne connaissent pas l'original.
C'est le moment de leur dire.
S'ils se reconnaissent, c'est que c'est raté, c'est ça ?
Je vous embrasse. Oui.
Toi, Camille, t'es cliente d'actu. Tu cherches un peu
en
dans
tous
l'actu.
En tout cas, j'étais cliente d'une jingle, hein, pardon.
Ouais.
Même Camille a un
ça
peu...
Ça swingait un peu. Ouais.
C'est Jacques, le chanteur Jacques, qui a fait le générique de l'émission.
C'est vrai ? Ben, top.
Top
Jacques.
Et bah top Jacques.
Top Jacques.
Tu te sers un peu de l'actu pour des chroniques ?
Franchement, je laisse ça à ceux qui savent le faire brillamment. Non, mais on peut faire quelques références à l'air du temps, mais. Moi je parle de moi.
mais c'est bien. On va quand même essayer de faire une petite revue de presse de l'humour d'Inter. Parce que par exemple, j'ai lu sur Ouest France que les championnats du monde de fléchettes ont été un succès total pour la chaîne L'Équipe. Camille, toi, quelle activité mériterait selon toi d'être suivie partout dans le monde à la télé ?
Sportive ? Pardon, enfin c'est pour Camille, mais je...
Ah bah, un truc...
Oui, qui... j'aurais tendance à dire un truc qui passerait en boucle à la télé... Mes chroniques, franchement.
Ouais. Je trouve que c'est une super activité. Vraiment très bien.
L'écoute de mes chroniques.
J'ai lu, Jonathan, dans le Huffington Post, qu'à cause de leur plat de nouilles piquantes, devenu viral, des pompes funèbres sont envahies de faux endeuillis. Donc je donne plus de contexte. Dans une petite ville en Chine, une entreprise de pompes funèbres possède une cantine réservée aux clients du funérarium pour les proches des personnes décédées. Le problème, c'est que leur recette de nouilles piquantes est devenue célèbre sur les réseaux sociaux et de nombreux visiteurs ont vite afflué pour les goûter avec une file d'attente de plusieurs heures devant le restaurant, et ça dérange les personnes endeuillées. Donc ça, c'est la magie des réseaux sociaux. Est-ce que, Jonathan, tu as des idées d'autres jolies choses que les réseaux sociaux pourraient changer ?
En tous les cas, j'adore les nouilles, donc ça me...
Ça te plaît déjà ?
Et j'aime les décès aussi. Donc pour moi, c'est le combo parfait. Hein. Ça me va très très bien. Non, mais c'est fou. Moi, je suis fasciné de voir les gens qui font la queue pour... Et finalement... pour mettre la photo, quoi. Mais
oui,
pas pour kiffer ce moment-là. C'est ça qui est terrifiant. Où je me dis, à quel moment tu ne te rends pas compte à quel point tu es victime de cette connerie. Mais oui, non, mais il y a plein de... En vérité, je vais vous dire, moi, il y a plein d'endroits, quand je découvre un lieu que j'aime, mais je le dis à personne maintenant. Je suis très égoïste parce que j'ai pas envie que ça...
Par exemple, cette émission, tu vas en parler.
Voilà, il n'y a aucun poste sur cette émission.
J'ai lu dans le Canard enchaîné que l'ex-premier ministre Michel Barnier veut raconter son passage à Matignon et il planche sur l'écriture d'un livre. Et le Canard enchaîné ajoute, d'une nouvelle plutôt. vous avez des idées de titres de livres pour Michel Barnier ?
T'as une onomatopée plutôt ?
Piou ! Pour moi, c'est oui. Je ne sais pas ce que penserait Yvan, le grand psychologue de la matinale, de toutes les réponses que vous avez données. Yvan, hein, le personnage fameux de Ilison Daniel, qui d'ailleurs a fait une apparition mercredi dans sa chronique.
J'ai fait une découverte, une nouvelle mode, le pitch dating. J'imagine que vous connaissez Mathilde, toujours à la pointe.
Bien sûr.
Pour les autres, ce sont de nouvelles soirées où l'on monte sur scène devant une assemblée de célibataires pour présenter et vanter les mérites d'un ami, dans l'espoir de lui faire rencontrer l'amour. C'est comme une sorte de présentation PowerPoint à visée copulatoire. Mais ce n'est pas vous qui, à la fin de la soirée, remuez le gigot, c'est votre ami, s'il est chanceux. Comme à chaque fois qu'on me fait découvrir quelque chose de nouveau, j'ai besoin de savoir ce que j'en pense. Et donc, je prends rendez-vous avec moi-même. Alors, je suis sortie de mon cabinet, j'ai marché un peu, j'ai fait demi-tour et j'ai sonné à mon cabinet. J'ai patienté dans la salle d'attente, mais j'avais une heure de retard, ça m'a mis en colère. J'ai pesté contre moi-même, banalité du transfert, Claude. Puis, j'ai commencé la séance avec moi-même, ce qui, dans une perspective lacanienne, est parfaitement possible, hein, puisque le psychanalyste ne dit rien, de toute façon. Quelques mots ont émergé, capitalisme libidinal, formatage du désir, role mops, dépouillement systématique de la contingence. Il y a un intrus, Nicolas. Bien. Par association libre, voilà le cheminement de ma pensée. Pitch dating. Pitch, cette petite brioche industrielle qui suinte le gras et le déclin de l'Occident. Puis soudain, Kurtoschkalach, cette brioche hongroise traditionnelle au seigle et à la poussière de briques, qui est également un excellent isolant thermique pour la construction de maisons individuelles. Kurtoschkalach que nous mangions côte à côte. Cette promenade le long du Danube par une matinée glaciale mais lumineuse, où le soleil nous fendait la rétine il y a des années. Tes cheveux blonds cendrés, Amalia. Ma main qui frôle la tienne, et moi qui n'ai pas de courage. Le musée du Clou de Budapest, te souviens-tu ? Il y a plus de 24 sortes de clous. Tu m'avais dit que ton préféré, c'était le clou de tapissier. Ah, quel après-midi, Amalia. Je me suis arrêtée sur cette réminiscence et me suis donné rendez-vous pour la semaine prochaine. J'ai ensuite réuni les confrères de mon groupe d'études et nous avons organisé notre propre pitch dating. Comme pour notre ciné-club mensuel, nous avons passé 75% de la soirée à essayer de faire marcher le rétroprojecteur en mangeant des noix de cajou. Le temps restant, nous avons tenté de nous pitcher les uns les autres. Christian n'a rien trouvé de mieux que de dire que j'avais un nez spongieux. J'ai été vexée. Je lui ai dit qu'il était un praticien médiocre et qu'il avait le regard épais. Il m'a dit que des Marcel Ruffo dans mon genre, il en faisait tous les matins. Puéril, anal, fatal. Il m'a traité de Schwanz, je l'ai traité de Wurz et Roland a dû se mettre entre nous deux, comme mon père et moi, entre moi et ma mouteur. Voilà. C'était l'histoire de trois psychanalystes qui essaient d'embrasser leur modernité, sans y parvenir toutefois. Comme je ne suis pas parvenue à embrasser Amalia ce matin-là de 1982 à Budapest. Je m'en mords encore les doigts. Amalia, si tu m'entends, que dirais-tu de me donner une autre chance, sans pitch, mais avec des courtos kalach?
C'était Lison Daniel qui, comme vous, Camille et Jonathan, on dirait presque un couple un peu fun, Camille et Jonathan. Elle chérit ses personnages chaque mercredi à 8h55 dans la matinale. Allez, dans quelques instants, vous nous ferez des petites recommandations humour, mais avant ça, on écoute Chapel Rhône et son Pink Pony Club sur France Inter. I know you wanted me to stay, but I can't ignore the crazy visions of me in LA. That there's a special place where boys and girls can all be queens every single day. I'm having wicked dreams of leaving Tennessee. You Santa Monica, I swear it's calling me. Won't make my mama proud, it's gonna cause a scene. She sees her baby girl, I know she's gonna scream. Girl, Chapel Rhône, Pink Pony Club.
L'humour d'Inter, l'hebdo, Marine Baousson.
Alors tout à l'heure, Jonathan Lambert nous a dit qu'il ne partageait pas les trucs qu'il aimait, mais
vrai.
Il va être quand même un petit peu obligé. Jonathan, est-ce que tu peux me parler d'un spectacle qui a changé ta vie ?
Alors, il y a deux trucs. Il y a Farid Chopel, c'est
oui.
Il y a très très longtemps, mais j'ai eu la chance d'aller le voir avec mon père, mes parents, qui l'adoraient. Il y avait quelque chose de totalement absurde, poétique. Malheureusement, il est parti très tôt et c'était quelque chose de très 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 nouveau à l'époque. Et puis, Colère aussi, de François Rollin, pareil, il y avait quelque chose de très absurde et de tellement incarné. Voilà, c'est un génie, François Rollin, on le sait.
Toi, Camille, un conseil, un spectacle qui a changé ta vie pour nos auditeurs, nos auditrices ?
Le spectacle de Vincent de Dienne, son premier spectacle, qui s'appelle « S'il se passe quelque chose ». Parce que c'est là que je me suis dit « Ah, mais c'est possible, en fait, de faire du théâtre dans ce monde, dans cette jungle de l'humour. » Voilà, comme je traînais beaucoup dans les comédie clubs et tout, le jour où j'ai vu Vincent de Dienne sur scène, j'ai dit « Ah, mais en fait, on peut faire ça. » et voilà, moi, je suis touchée par, de toute façon, les comédiens qui jouent seuls en scène, plutôt que par les spectacles de stand-up. Et Jonathan Lambert, d'ailleurs, est une référence aussi en termes de... Je te jure, en termes de... on peut faire des personnages, on n'est pas obligé de se tenir droit derrière un micro, voilà. Moi, ça me parle beaucoup plus, ça. Voilà.
Mais d'ailleurs, si tu pouvais
te
tenir un peu.
Je me tasse un peu.
La semaine dernière, Ahmed Sparrow nous a fait le point sur DAZN, qui refusait de payer les droits de diffusion à la Ligue de football professionnelle. C'était dans Zoom Zoom Zen.
DAZN, plateforme anglaise de streaming, qui est tellement claquée qu'elle a provoqué l'essor du piratage. Et maintenant, ils veulent punir le piratage, mais je ne sais pas si vous avez déjà essayé de regarder un match de Ligue 1 sur un site illégal, c'est une souffrance. D'abord, il faut fermer 12 pop-up cachés dans les recoins obscurs de ton écran, ensuite, tu es bombardé de pubs pour du Viagra et des matures chaudes dans ta région. Et après tout ça, tu te tapes 90 minutes de en gênante. Le châtiment, il est là, en fait. DAZN, c'est une invention des Britanniques. Ces mecs qui trouvent normal de payer 20 balles pour un fish and chips se sont dit, on va faire payer 30 balles pour la Ligue 1, c'est une bonne idée. Ils ont dû faire des matchs en tribune présidentielle au Parc des Princes et se dire « Oh, les Frenchies regardent du foot en buvant du vin, on va pouvoir les baiser. » Mais non, non, non. Do you know Cronenbourg ? Do you know PMU ? Do you know GG ? Je peux te dire que GG ne va pas mettre 30 euros pour voir Gamero mettre des frappes dans les tribunes. Bien sûr que GG va pirater et il va même pas regarder le match parce que GG leur a cliqué sur les matures chaudes de sa région. Voyant que ça marchait pas, DAZN a pris une décision radicale. Ils ont décidé d'arrêter ce qu'ils devaient payer au club français. Les Anglais, depuis le Brexit, ils ont pris la confiance. Eux, ils croient qu'ils peuvent quitter les groupes comme ça, des conversations comme ça. Ça se fait pas. Hein. Les clubs doivent payer leurs joueurs. Sinon, bientôt, même eux, les pauvres, ils pourront pas avoir un abonnement DAZN. Comme l'a dit DAZN, veut lutter contre le piratage. Mais frère, quand tu fais payer 30 euros pour voir Brest-Metz, c'est pas du piratage, c'est de la légitime défense. En plus, pour 30 balles, t'as juste la Ligue 1. C'est comme si Netflix faisait un abonnement à 30 balles et tu pouvais voir que les films de Steven Seagal. Et maintenant, ils vont cafter à l'Arcom, sauf que l'Arcom ne bosse pas le week-end. DAZN leur a demandé pourquoi il y avait autant de liens illégaux pendant les matchs. L'Arcom a répondu « Nos services sont actuellement hors service. Veuillez nous contacter du lundi au vendredi midi. » C'est-à-dire que le week-end, il y a plus de piratage que de pressing dans un match de Ligue 1. D'ailleurs, entre DAZN et l'IPTV, il y en a un où ça bug, les commentaires sont incompréhensibles et t'as des pubs au mauvais moment et l'autre, il est illégal. Et je sais pas si vous avez déjà regardé un match là-dessus, mais oui, une fois j'ai regardé un match sur l'IPTV, alors c'était pas le mien, hein, je passais comme ça dans un restaurant.
Évidemment.
L'IPTV, c'est la SNCF de la télé, hein. Le retard, c'est du n'importe quoi. J'ai un pote, son IPTV, il est tellement décalé que nous, quand on fêtait la fin des JO, lui, il fêtait la fin de la Coupe du Monde 2018. Parfois, quand ça avance au ralenti, c'est pas si c'est un bug ou la Ligue. Hein. Les mecs qui vendent l'IPTV, c'est une autre dimension aussi. Alors eux, ils t'envoient une liste de 12 000 chaînes pour 40 balles par an. Dedans, t'as des trucs chelous comme Canal+, Burkina Faso, TF1, Mayotte. T'as déjà regardé un match sur l'IPTV ? T'as déjà regardé un match commenté en indien ? C'est une comédie musicale, le bordel. D'ailleurs, je me demande si l'inverse existe. S'il y a des Indiens qui regardent des films de Bollywood commentés par Omar Da Fonseca. Oh là là, mais regardez-moi cette danse. C'est une chaleur, une passion, une poésie. Ils dansent comme dans un papillon qui effleure une rose dans les de Bombay. Les mecs qui vendent des IPTV, c'est des génies en marketing. Tu payes 40 balles et direct ils t'ajoutent sur un groupe WhatsApp avec un drapeau algérien, un émoji feu et un message épinglé qui dit « Si ça coupe, oh là, c'est sûr, on m'a balancé. » Non, leur service client, c'est un chef-d'œuvre. Tu leur écris à n'importe quelle heure, ils te répondent toujours la même chose. « Frère, t'inquiète, c'est géré ma gueule. » Ouais, mais moi, je pense que DAZN devrait juste recruter ces mecs-là, en fait. Ouais, il y aurait des fautes de grammaire sur les mails, mais au moins, les clients seront satisfaits.
Il faut croire qu'Ahmed Sparrow pèse en matière de droit TV, puisque depuis cette chronique, DAZN a finalement accepté de rembourser sa dette. Voilà, c'est formidable, on est bravo à lui. Vous le retrouvez les mercredis à 16h55 dans Zoom Zoom Zen, mais on se ferait pas un petit bilan de ma semaine ?
Ah, bah s'il te plaît, Marine.
C'est Jacques aussi, ça ?
C'est Jacques aussi, il y a une ambiance de boîte, j'adore. Vous dansez, c'est magnifique.
Mais je préférais le précédent tout de même,
ah, c'est vrai,
pour être honnête.
Bon, écoute, on lui dira pas, on lui dira pas. Cette semaine, ça faisait 5 ans que le premier patient français est décédé du Covid. Non, bah non, non, c'est peut-être un peu too much. Alors, au mois de mars, oui, ça fait 5 ans qu'on a été confinés, qu'on a fait du pain et qu'ensuite on a fait la blague « Je fais du pain comme tout le monde !» Excellente vanne. Alors, moi, il y a 5 ans, on venait de se mettre ensemble avec ma copine, on s'est confinés dans 28 mètres carrés à Paris. Et aujourd'hui, ça veut dire qu'il suffit que je sois pas en pyjama pour qu'elle me dise bah, « Dis donc, tu te fais de belles burkis, alors que j'ai juste mis un jean. » Ou alors, il faut que je me lave les cheveux. Oui, parce qu'il s'est passé des choses sales pendant le confinement, littéralement, parce qu'on a fait une cure de sébum. Vous voyez ce que c'est ?
Oh,
oui,
wow.
Oui, ça consiste.
L'association des mots, là.
Cure de sébum, ouais, c'est bien. En fait, ça consiste donc à ne pas te laver les cheveux pendant 15 jours pour que ton cuir chevelu se régule. Voilà. Et le résultat est tout simplement dégueu. Voilà, on avait plus de chances de choper une maladie que, comme ça, que d'avoir le Covid, mais on a tenu 3 semaines. Moi, je pense que le 20e jour, tu m'essorais les cheveux, il y avait moyen de faire des frites. Je sais pas comment vous donner une image. Vous voyez les serpillères avec des franges, là ? Et ben, vous en prenez une, vous la trempez dans de la mayonnaise, et voilà, c'est ma coupe. Et alors, le mieux là-dedans, c'est que pour elle, comme pour moi, ça n'a rien régulé du tout. Hein. Je suis pas ressortie en me disant, et voilà, c'est magique, plus jamais de cheveux gras. Non, je suis ressortie chez moi en disant, et voilà, j'ai oublié de faire mon attestation, comme tout le monde. Voilà, c'était une époque folle. Quand tu croisais quelqu'un, on allait faire des courses, tu t'écartais pour laisser une distance. On voyait les gens comme des menaces. Comment on expliquait ça avec des mots d'aujourd'hui ? En fait, on regardait tous les gens comme s'ils étaient Elon Musk. Parce que Elon, t'as qu'une peur, c'est qu'il te salue, en fait. Hein. Bon, l'avantage, cela dit, c'est que quand je sortais, j'avais pas peur de me perdre, puisque pour revenir sur mes pas, il me suffisait de suivre la trace de sébum que j'avais laissé à l'aller, comme un escargot. Ah, comme dirait François Bayrou, on savait rien à l'époque. Hein. C'est vrai, on savait pas si on allait s'en sortir. Heureusement, après, le vaccin contre le Covid est arrivé. Moi, j'ai pu être vaccinée parce que j'étais vulnérable. Voilà. C'est la seule fois de ma vie où j'ai été contente d'être obèse. Hein. Sinon, globalement, le reste du temps, c'est quand même pas ouf. Hein. Quoi que je dis ça. Mais le harcèlement en ligne, c'est pas si désagréable que ça. Hein. Enfin, bon, en tout cas, on a eu le temps de l'attraper 10 fois, le Covid, maintenant, sans que ce soit un événement. Mais je me demande ce qui nous reste de cette période. C'est vrai, tu sais, des fois, dans une poche, tu sens un truc, tu te demandes ce que c'est que ce mouchoir bizarre, et oh, c'est un masque jetable. Et tout ce que tu dis, c'est, eh ben, je le mets pas souvent, ce manteau, dis donc. Allez hop, Vinted. Et puis, il reste toujours, dans un endroit improbable à la maison, un ou deux masques en tissu déformé qu'on n'arrive pas à acheter parce qu'on est nostalgique. On se dit, puis c'est quand même le témoin d'une époque, hein.
Je l'ai jeté la semaine dernière.
C'est vrai, voilà, c'est rose, ça. Monsieur. Non, mais moi, je les garde comme si dans 40 ans, il y a mon neveu qui ira dans Affaires conclues en disant, j'ai hérité ça de ma vieille tante. Je l'ai toujours vu exposé sur son rétroviseur avant, mais bon, en fait, c'est un masque Monoprix et elle le gardait en souvenir du confinement en 2020. Mais non, mais c'est incroyable, il est superbe, c'est un vrai, c'est hyper rare. Oui, oui, apparemment, elle l'a vraiment porté pour se protéger des bactéries et ça sans jamais le laver. Ah oui, ça explique l'odeur atroce, c'est fantastique. Tenez, j'ai une photo d'elle qui le porte, regardez, c'est la dame en pyjama avec les cheveux gras. Oh, ouais, ouais. Ah non, c'est magnifique ce masque, il est d'origine, il est en superbe état. Allez, je commence les enchères, 4 bitcoins. Alors à l'époque, on applaudissait les soignants, moi j'applaudissais ma belle-sœur, une infirmière qui devait s'habiller avec des sacs poubelles tellement c'était la merde et qu'il n'y avait plus de matériel. Mais heureusement, depuis, on a pris conscience de l'importance de ces professions et on a revalorisé leur salaire et augmenté le nombre de lits dans les hôpitaux. Non, pardon. Non, autant pour moi. 5 ans après le Covid, la vie a repris. Alors, à dans 5 ans, en espérant que le monde d'aujourd'hui ne soit plus qu'un souvenir lointain comme celui du Covid. C'était votre émission préférée, l'humour d'Inter, l'hebdo, l'émission qui vous donne envie d'aller vous abonner au fil de podcast L'humour d'Inter sur l'application Radio France. Merci Camille Lavabre, merci Jonathan Lambert.
Merci, avec je mettrai une très bonne note sur TripAdvisor.
Ah, c'est gentil, donc finalement tu en parleras, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. C'était L'humour d'Inter, l'hebdo, cette émission elle a été préparée par Louise Tempero, documentée par Hervé Evano et l'antenne INA. Lucie Lemarchand était à la réalisation, Jean-Baptiste Audibert et Valentine Chedebois à la programmation musicale. Et c'était Mathias Alléon à la technique.
Et jingleisé par Jacques.
Bien sûr.